Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Au Première Loge, spécial série éliminatoire dans l'Initiative d'Hockey. Comme on vous l'a promis, on va faire un épisode à tous les jours durant les deux prochains mois pour couvrir tous les événements et surtout tous les matchs durant ces séries éliminatoires-là de l'Initiative d'Hockey. Encore une fois, c'est moi, Dolly Ibrahim, qui va animer l'épisode d'aujourd'hui. Et on est juste deux, mais... j'ai mon grand ami, collaborateur à sous-réception, Philemon Lafrenière-Prémont, qui est avec moi. Phil, comment ça va?
Ça va super bien. Je suis prêt, je me sens d'attaque là, pour qu'on fasse ça à deux. Là. Ça va bien se passer. Oh.
Ben oui. Parce que là, de toute façon, on a eu beaucoup d'actions hier dans l'Initiative d'Hockey. On va couvrir ça plus en détail à deux. C'est quand même particulier parce que d'habitude, on est trois, quatre. Dans le premier épisode, on était cinq. Là, on est juste deux. Fait que ça va être bon, mais c'est... Je promets aux gens que ça va être un bon show. Là. Bon, on va commencer tout de suite. On va parler de la série entre les Rangers et les Penguins de Pittsburgh. Cette série-là est maintenant 1-1. Comme on le savait, comme tout le monde le sait, au premier match dans cette série-là, ça s'est terminé en cinquième prolongation sur un but d'Evgeny Malkin. Mais hier, les Rangers de New York ont su rebondir dans cette série-là et l'emporter 5-2. Les marqueurs côté des Rangers de New York sont Andrew Kopp, Ryan Strom, Chris Kreider, Artemi Panarin et Frank Vetrano. Du côté des Penguins de Pittsburgh, les deux marqueurs, sans surprise, Jake Guentzel et Sidney Crosby. Finalement, tu as pensé quoi de ce match-là entre les Rangers et les Penguins?
Ben, c'était un bon match de série pour vrai. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à regarder. On a vu une panoplie de buts bizarres, des rebonds étranges de tous bords, tous côtés. Dans les sept buts marqués, dans le fond, il y a juste celui de Frank Vetrano, qui n'est pas une déviation ou qui n'est pas un but bizarre. Même les buts des Penguins sont assez particuliers. Puis pour vrai, un autre match physique, les Rangers m'ont quand même étonné. Je pensais pas qu'ils allaient rebondir aussi fort que ça. Puis du côté des Penguins aussi, on a pu voir que... même si c'est Louis Domingue qui a gaulé en partie, on ne se laisse pas tomber. Là. On essaie de revenir en troisième période, mais le brio de Igor Shesterkin a fait que les Penguins se sont avoués vaincus. Puis tout ça, ça laisse présager une fin de série fort intéressante qui va être, d'après moi, très, très, très serrée.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment une série qui est extrêmement physique. Puis j'ai peur pour les deux équipes parce que pour vrai, j'ai vraiment l'impression que peu importe le gagnant entre les Rangers et les Penguins, les deux équipes vont être amochées là, quand, en arrivant probablement contre la Caroline. On l'a vu hier là, déjà du côté des Penguins Pittsburgh. On a su il y a quelques minutes que Kayser DeSmith allait rater le reste de la série. Tristan Jarry qui est blessé. Brian Dumoulin qui n'a pas disputé le match hier. Ricard Raquel aussi qui est blessé. Jason Zucker. Puis aussi, il ne faut pas l'oublier du côté des Rangers de New York. Ryan Lindgren ne jouait pas hier. Barclay Goodrow aussi qui ont été cherchés via les joueurs autonomes l'an dernier est également absent. Puis Shesterkin hier aussi, on le voyait un peu de fatigue. Oui, il a extrêmement bien performé. Oui. Mais on sent que ses mouvements, des fois, c'est un peu compliqué. Puis peut-être qu'il cache une blessure. Puis hier aussi, le contact sur Jeff Carter aurait pu le blesser, mais il a un peu joué la comédie.
Il a joué la comédie.
Ouais, je suis curieux de savoir ton opinion sur ce contact-là. Est-ce que tu penses que c'est Jeff Carter le coupable?
C'est définitivement Jeff Carter le coupable. Igor Shesterkin essaie de revenir dans son but tout simplement, puis Jeff Carter a fait aucun effort pour l'éviter. Puis c'est quand même un contact dangereux, même si finalement ça a bien fini pour Shesterkin, puis qu'il a un peu joué la comédie. Là. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça, il aurait pu être vraiment touché au niveau du genou. Mais ce contact-là, ce que ça va faire d'après moi, c'est que les prochains matchs vont être encore plus physiques. Là. Les joueurs des Rangers vont vouloir se venger, ça va donner des bons coups d'épaule. Puis, qui sait, peut-être que ça va jouer dur autour du filet de Louis Domingue. Là.
Ouais, ben écoute, Louis Domingue, il a quand même accordé 5 buts, mais je trouve que il a quand même eu une bonne performance en général. Il faut le mentionner, là, il n'a pas été chanceux. Là. 4 des 5 buts, c'est de tête déviée, dont le but d'Artemi Panarin qui a dévié sur son défenseur, Michael Matheson, juste devant lui. Puis, en général, je trouve qu'il est extrêmement serein. Puis c'est vraiment difficile pour lui d'arriver dans ces séries éliminatoires-là, après avoir seulement joué deux matchs à saison régulière. Puis en plus, il y a eu un gros défi en arrivant en deuxième prolongation lors du match numéro 1. Puis tu affrontes le meilleur gardien de la NHL d'hockey devant lui. Là, c'est vraiment pas évident. Mais il y a un autre fait aussi que je veux mentionner, c'est du côté des Penguins de Pittsburgh, il faut que les joueurs de soutien se réveillent parce que les Penguins ne peuvent pas espérer gagner juste en ayant Crosby, Malkin, Ross et Genzo là, qui produisent. Il faut que les autres aussi produisent. Que ce soit Evan Rodriguez, que ce soit Jeff Carter, que ce soit Kasperi Kapanen, que ce soit Brock Megan et plein d'autres. On le voit du côté des Rangers de New York. Il y a une belle production du top 6 et même du top 9. Là. Puis c'est un peu le lacant sur cet aspect-là à Pittsburgh.
On a plus d'appui de la défense aussi à New York. Avec Adam Fox. Puis du côté des Penguins, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Puis comme tu l'as dit, c'est sûr que les Penguins, c'est jamais une équipe qui a été, depuis 15 ans, là, c'est une équipe qui n'a jamais été reconnue pour sa profondeur. Là. C'est une équipe qui se base sur Crosby et Malkin. Mais là, le problème, là, un trio et demi, c'est pas assez. Là. Tu peux pas gagner une série comme ça. Il va vraiment falloir, comme tu l'as dit, que les joueurs de soutien se réveillent. Juste si le deuxième trio pouvait compléter Malkin, ça serait déjà pas mal pour les Penguins de Pittsburgh. Sinon, ça va pas être facile contre les Rangers. Surtout que Shesterkin, il est incroyable. Là. C'est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Il va falloir le plus grand apport de tout le monde.
Mm-hmm. Puis du côté des Rangers de New York, il faut qu'ils fassent attention aussi au niveau des revirements. On l'a vu hier sur le premier but de Genzel. C'est Artemi Panarin qui a essayé de faire une passe en diagonale, puis Crosby a facilement intercepté, contre-attaque, Genzel marque. C'est même chose aussi du côté, je crois que c'était le deuxième but de Crosby où il y a eu un revirement en zone offensive, puis Crosby a décidé de partir tout seul, puis de juste dire « Ok, ben je vais essayer d'en déjouer 3-4 à la McDavid », puis finalement, ben, ça a porté ses fruits, il a marqué un but quand même exceptionnel pour les Penguins. Mais c'est une série qui va être drôlement intéressante. Moi, j'avais pris les Rangers à 5 matchs, mais je pense que ça va être plus long que prévu, malgré les blessures.
D'après moi, ça va finir en 7 matchs encore. Mais là, je suis plus sûr que les Penguins l'emportent avec les blessés devant les buts. Mais on ne sait jamais. Ça va vraiment être intéressant. Puis je suis d'accord quand tu disais tantôt que ça va être dur contre les Hurricanes de la Caroline en deuxième ronde pour l'équipe qui sort de la série. Mais comme tu as dit hier dans notre conversation privée, le but de Crosby, là, ça n'aurait pas marché contre les Hurricanes. La défense des Hurricanes est trop solide, capable de contrer ce genre de jeu-là facilement. Là.
Aucune chance. L'année passée, puis je l'avais mentionné dans l'épisode d'hier, ou hier, avant-hier, bref. L'année passée, le succès des Islanders de New York contre les Penguins, c'était qu'ils étaient capables de contrer Crosby, Genzo, Ross avec Adam Pellick et Ryan Pollock. C'est littéralement ça qui a permis aux Penguins aux Islanders de remporter cette série-là. Puis en ce moment, du côté des Rangers de New York, il n'y a personne qui peut faire le travail comme ces deux défenseurs-là. Le seul qui est capable d'un peu les ralentir, c'est Ryan Lindgren, puis il est absent. Ça va être compliqué. Mais moi, comme je te l'avais dit, Phil, hier, dans notre convo privé, je pense que Caroline va aller en finale de conférence, puis je suis même pas inquiet. Je suis persuadé. Là. Je suis vraiment persuadé. Mais ça reste
plus à voir. Plus ça avance, plus c'est plausible, honnêtement. La Caroline joue tellement bien depuis le début des séries que c'est dur de voir comment il pourrait perdre une série avant la finale de conférence.
Ouais, je suis 100% d'accord là-dessus. Le prochain match va avoir lieu demain soir du côté de Pittsburgh. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Brian Dumoulin, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Ryan Lindgren, on ne sait pas si Tristan Jarry... on ne connaît pas non plus l'état de santé de Tristan Jarry, puis ça va être probablement Louis Domingue qui va être encore devant les filets, mais ça s'annonce vraiment intéressant. Là, on va aller du côté de la Floride, le match numéro 2, également, victoire des Panthers à Floride, et la série est maintenant égale 1-1 du côté des Panthers à Floride. Les gros canons s'est réveillé. Aaron Ekblad, Alexander Barkov, Anton Lundell, Carter Verhaeghe et Mason Marchment ont marqué. Jonathan Berdeau aussi a eu un point ou deux, je crois. Et du côté de Washington, c'est Nicklas Backstrom qui a marqué un avantage numérique. Phil, t'en penses quoi de cette belle performance de la Floride?
Ben, je pense que cette performance-là des Panthers, c'est ce qui était attendu au match numéro 1 par tout le monde. Ils ont montré c'était quoi les Panthers. C'est une équipe qui peut produire de partout. Tous les joueurs sont utiles, tous les joueurs peuvent produire. Puis c'est ça qui s'est passé hier. Il y a 5 buteurs différents. Puis je sais même pas si... Ouais, il y en a qui ont 2 points, mais il n'y en a pas beaucoup là. Tu sais, c'est une production vraiment très variée. On a vu Verhaeghe, Lundell, Marchment, Barkov avec Blad. Les défenseurs peuvent produire. Puis pour vrai, on a vraiment vu le rouleau compresseur des Panthers là. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va juste dérouler contre les Capitals. Je m'attends vraiment à voir les Panthers gagner le prochain match facilement. Du côté de Washington, c'est sûr que c'est un peu plus difficile en ce moment. Ovechkin n'a pas nécessairement l'air à 100%. Des joueurs comme Kuznetsov puis Anthony Mantha jouent vraiment bien, je trouve, mais devant les buts, là, c'est pas facile. Peut-être que Vanecek hier a connu un match vraiment difficile. C'était très ordinaire. Là.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, on l'a vu hier, là, de Washington ont quand même bien commencé le match. Ils ont dominé la Floride au niveau des tirs au but, surtout durant la première moitié du match. Mais l'affaire, c'est que Vitek Vanecek a accordé des mauvais buts, surtout sur le premier but du match, qui est celui d'Aaron Ekblad. Ça n'a pas aidé la cause des Caps, là, c'est clair. Là.
Vraiment pas. Puis, mais là, est-ce que tu lui fais confiance pour les prochains matchs à Vitek Vanecek? Tu le laisses encore? Parce que sinon, c'est l'autre option, c'est Ilya Samsonov. T'sais, c'est pas un dilemme très agréable du côté de Washington.
Non, clairement.
Puis quand on affronte la machine offensive qui est les Panthers, on a vu Huberdeau hier, là, son assistant sur le but de Barkov, c'était de toute beauté. Puis quand on affronte des joueurs comme ça, t'as besoin d'avoir des bons gardiens là, pour te donner une chance.
Non, clairement, t'as raison, mais depuis le début des séries éliminatoires, là, avec la situation des gardiens un peu partout, là,
ouais,
je ne serais pas surpris que Samsonov soit devant les buts du côté de Washington. Puis, mettez par exemple la différence comparée à la Caroline ou à Pittsburgh ou même à Nashville. C'est pas une question de blessure qu'il va faire du mouvement du côté des gardiens de but. Là. C'est vraiment une question de faire confiance à Vanecek ou à Samsonov. Mm-hmm. Mais moi, à mon avis, je pense que Vanecek va être de retour pour le match numéro 3. Je pense que les Panthers vont faire confiance en ses services pour le prochain match. Mais qu'est-ce que j'allais mentionner? J'allais dire que moi, ce qui m'impressionne aussi du côté de la Floride, c'est leur jeu physique un peu. Ils sont capables de compétitionner avec Washington au niveau de l'intensité. Là. On l'a vu hier, là, Washington ont quand même des gros bonhommes, là, que ce soit Tom Wilson, ouais. Que ce soit Garnett Hathaway, que moi, je ne suis pas un grand fan d'Hathaway parce que je trouve qu'il est gossant comme joueur, mais je comprends son intensité, mais c'est ça qui m'a vraiment impressionné du côté des Panthers, c'est qu'ils sont capables de rivaliser physiquement avec les Caps.
Mais c'est pas super surprenant, on se rappelle l'année passée contre le Lightning, les Panthers avaient montré cette facette physique-là qui ressortait pas nécessairement en saison régulière. Puis en parlant de Tom Wilson, c'est un coup dur pour les Capitals, ça, qui a été blessé pendant le match numéro 2. Mm-hmm. En ce moment, c'est un peu nébuleux son état de santé, mais c'est une grosse pièce, là, surtout... Il est capable de marquer des buts, c'est un gros gars, joue du bon jeu physique, il est super important à cette équipe-là. Puis sans Tom Wilson, les Capitals vont vraiment en arracher.
Non, c'est vrai, mais en même temps, un peu comme dans la série qu'on avait parlé précédemment, le fait que Washington revienne à la maison avec une série égale 1-1, je trouve que c'est un scénario parfait là, pour eux. Là.
C'est clair.
Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient prédit que Washington allait gagner le match numéro 1 ou même que Washington soit dans le coup dans cette série-là. Puis, tu sais, Vanecek, OK, il a mal joué au deuxième match, mais au premier match, il était bon. Fait, je ne serais pas surpris qu'il soit encore meilleur demain. Là.
On va lui laisser le bénéfice du doute.
Exactement.
Ça se pourrait très bien.
Oh non, ça se pourrait très bien. Mais c'est une question de temps, mais Ovechkin se réveille. Là. Moi,
des
j'ai
blocs,
vraiment l'impression. Ouais. Du côté de Washington. Là, au premier match, oui, il n'a pas marqué, mais il a connu un bon match en général. Là. C'est lui qui a quand même provoqué le but de Kuznetsov sur un jeu assez spécial de Mackenzie Weegar qui a essayé de jouer Kuznetsov alors qu'il était le dernier défenseur. Ça, c'est la pire idée. Pour nos auditeurs, là, il faut comprendre que peu importe le sport professionnel, si tu es le dernier défenseur, faut pas que tu essaies de faire des fins et des jeux risqués parce que sinon, il n'y a personne derrière toi pour te couvrir.
C'est un principe de base.
C'est un principe de base. Mais ça va être intéressant. Mais le match va avoir lieu demain également. Je crois que c'est à midi ou à 13h. Ouais. Ça va être tôt le match du côté, du côté de Washington. Ça va être intéressant de regarder
suivre,
ça. Ouais. Ouais, c'est 13h exactement. 13h. Le troisième match va avoir lieu à 13h. Demain, du côté de Washington, on va pas aller du jeu de prédiction parce que On en a déjà fait assez. On va le faire sur à sa réception aussi. Fait comme n'a pas besoin de faire ça. Bon, là, changeons d'association. On va aller du côté de l'Ouest. D'abord, on va commencer avec la série entre l'Avalanche Colorado et les Predators de Nashville. Sans surprise, l'Avalanche a remporté ce match-là et mène 2-0 dans cette série-là. Mais une autre surprise, c'est que le match a terminé en prolongation hier. Du côté de l'Avalanche Colorado, Nathan MacKinnon avait marqué le premier but du match. Par la suite, David Trenin a égalé la marque du côté Predator. Et M. Kyle Makar, qui est tout feu depuis le début des séries, a marqué le but de la victoire qui a permis à l'Avalanche de prendre une avance de 2-0 dans cette série-là. Finalement, tu as pensé quoi de la performance de Connor Ingram qui a quand même 49 arrêts dans ce match-là, à son premier départ?
Vraiment, j'ai vraiment été surpris, honnêtement. Mais qui s'attendait à ça, tu sais? Qui s'attendait à 49 arrêts de la part de Connor Ingram contre l'Avalanche, là? C'est pas des tirs qui viennent du long de la bande, là. C'est des tirs de qualité, là. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va tenir? D'après moi, non. Je pense pas que ça va continuer pour les prochains matchs. Mais pour vrai, les fans de Nashville, je leur souhaite de s'être réjouis de cette partie-là parce qu'il y a des moments de bonheur dans la série. Il y en aura plus beaucoup, là. Il faut vraiment saisir toutes les occasions. Là. Parce qu'on l'a vu, hein, oui, ça finit en prolongation, mais ça aurait dû se terminer bien avant ça, ce match-là. L'Avalanche a dominé outrageusement.
Ah non, c'est incroyable. Comme il y a une facilité là, du côté de l'Avalanche. Mm-hmm. C'est une facilité déconcertante, à mon avis. Puis, on l'a vu hier, là, Connor Ingram a fait des arrêts absolument incroyables. Je me rappelle, là, il y a eu un arrêt sur, je pense, c'était Nazem Kadri, là. Sur un jeu avec Bowen Byram en 2 contre 1, se déplacer de l'autre côté, vole un but certain avec Adjui, puis performance sensationnelle, là, 49 arrêts sur 51 tirs. Nashville n'était pas dans le coup, là, genre, était pas dans le coup du tout. Là, genre.
Non, oui, j'ai jamais vu une prolongation avec autant peu de suspense que ça, là, à moins d'un miracle, c'était clair que ça allait du côté de l'Avalanche, là, cette partie-là.
Non, clairement aussi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que les gros canons des prédateurs sont un peu...
sont silencieux. Hein.
Ouais, sont très silencieux. Sont disons-le, un peu absents. Là, genre.
Ouais, les Forsberg, les Duchesne,
Duchesne a produit au premier match, il a marqué 2 buts. Mais t'es 2 buts dans une défaite de 7-2, est-ce que c'est une si belle production que ça? Je pense pas, là. Mais même Roman Yossi aussi, qu'on l'a beaucoup vanté depuis le début de la saison, a pas connu le match du siècle. Mais en même temps, on sait pas qu'est-ce qui va se passer à Nashville. Est-ce que les Prédateurs... On le sait, on connaît la foule du côté de Nashville, comment elle peut être brillante et comment elle peut être un X-facteur important, là. Je pense qu'ils vont tout donner pour permettre aux Prédateurs de peut-être avoir un petit coussin de plus qui vont leur permettre de peut-être gagner un match. Parce que moi, je pense que ça va finir en 4. Je pense que ça va finir en 4.
Ouais, moi, je la vois en 5, cette série-là. Je vois la fin, justement, permettre aux Preds de gagner un match, peut-être. Ça va être le dernier moment, le prochain match. Je pense que les Preds peuvent gagner le prochain match.
Ben, c'est ça. Ben, moi, j'avais pris Colorado en 5, mais... On dirait que même quand les matchs sont serrés, l'Avalanche trouve à moins de gagner. Puis ça, c'est vraiment impressionnant.
Ouais.
Je trouve là, cette équipe-là, c'est pas pour rien que c'est une des équipes favorites. Là. Parce que c'est...
Mais non, c'est pas pour rien. Là. Quand tu regardes la défense aussi, c'est une autre raison pourquoi les canons des Preds en arrachent en ce moment. Là. Tous les défenseurs jouent excessivement bien. Là. C'est vraiment dur de produire contre ça. C'est dur de marquer des buts contre cette équipe-là.
Ouais. Et Marcel Arabe aussi, à Kyle Makar qui prouve que c'est le futur de la LNH au niveau des défenseurs. Là. C'est...
Les séries sont jeunes, mais au moment où on se parle, Kyle Makar est le favori pour remporter le Conn Smythe.
Oh! Ouais, t'as bien mentionné le fait que les séries sont jeunes. Parce que...
ouais, mais il est bien parti, on va dire ça.
Il est bien parti. Pour moi, il est un des favoris. Là. Il est un des favoris. Ça s'annonce intéressant. Le prochain match va avoir lieu également demain après-midi. À 16h, pour être exact, du côté de Nashville. Est-ce que les Prédateurs vont réussir à soutirer une victoire? Est-ce que l'Avalanche va continuer à dominer? Ça reste à voir. Parlons de la dernière série, puis je ne vais pas mâcher mes mots, là, la série la plus poche
Clairement.
de la Ligue nationale au complet. Là. Celle entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas ont remporté cette partie-là par la marque de 2-0. Un but de Pavelski en première période et un but de Michael Raffel à la fin du match dans un filet désert. Phil, peux-tu nous expliquer pourquoi cette série-là est autant en poche?
Hey, pour vrai, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe là. C'est pas comme s'il n'y avait pas de joueurs offensifs dans les deux équipes. Là. Dans les Flames, on a Lindholm, Gaudreau, Tkachuk, Mangiapane, Toffoli, Backlund qui sont tous capables de produire comme des fous. Du côté des Stars, on a Robertson, Rupe Hintz, Pavelski, même Tyler Seguin qui peut beaucoup produire. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. C'est pas comme si les gardiens jouaient de manière exceptionnelle non plus. Là. Mais. C'est plate, c'est des matchs plates tout simplement. Pas beaucoup de tirs au but, pas beaucoup de chances de marquer. C'est du jeu peu ouvert. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez?
Ben ça, j'allais dire que ce style de jeu, cette série-là se résume pas mal au style de jeu de Darryl Sutter qui est reconnu pour avoir des styles un peu plus défensifs et des matchs un peu plus, disons-le, ordinaires au niveau offensif. Là, comme on l'avait vu là, quand il a remporté deux Coupes Stanley en trois ans à Los Angeles, c'était comme ça, là, le trois quarts du temps, là, les matchs, c'était des matchs ennuyants, malgré qu'il y avait une équipe offensive. Faut se rappeler, là, du côté des Kings de Los Angeles, il y avait Kopitar, Doughty, Jeff Carter, Justin Williams. Tu avais une excellente équipe offensive, mais il trouvait toujours le moyen d'avoir un peu de spectacle, mais c'était efficace. C'était efficace.
Mais peut-être qu'il va y avoir un ajustement du côté de Soler, justement, parce que Dallas est embarqué dans le même jeu, puis Dallas le fait très bien également. Là. Ah, du côté de Calgary, on a l'effectif pour déclasser Dallas offensivement. Donc...
Je dirais pour déclasser Dallas dans tous les aspects du jeu. Là.
Oui. Genre,
Dallas, on l'a dit pendant longtemps, peu importe que ce soit ici ou à sous réception ou sur d'autres podcasts, on dirait que c'est le jour et la nuit au niveau des performances du côté des Stars de Dallas. Des fois, ils arrivent, ils sortent des performances extraordinaires, puis il y a d'autres fois où ils sont juste poche, ennuyant et pas efficace. C'est ça qui est un peu triste à voir du côté de Dallas. Moi, je pense que cette série-là... moi, j'avais pris cette série-là en 6 matchs, puis je pense qu'elle va se prendre en 6 matchs. Moi, je pense que les Flames ont trouvé un moyen de s'ajuster puis de s'en sortir. Là.
Ouais, je pense aussi que les Flames vont finir par marquer des buts. Là. Par contre, là, Dallas est quand même dans une bonne position. Ils s'en vont chez eux, 1-1, c'est toujours une bonne... Ben, d'ailleurs, on va parler de ça un peu. Là. Il y a 6 séries qui sont égales 1-1. Mm-hmm. C'est quand même surprenant. Ça démontre une belle parité dans la LNH et c'est super excitant, je trouve, à voir. Mais tout ça pour dire, les Stars, sont quand même dans la bonne position. Ils ont le momentum dans la série, mais je m'attends à voir produire les Flames d'un jour ou l'autre. Là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Là.
Ouais, ben... T'sais, Jake Oettinger est un excellent gardien de but, puis on le voit depuis le début de la série. Là, le gars est capable de voler un match ou deux. Là. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a les capacités pour refaire une performance comme celle d'hier soir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Phil, sur le fait qu'il y a une belle parité qui, dans la ligue de hockey. Là, tu l'as mentionné, les 6 débuts de série sont égales 1-1, sauf la série, sans surprise celle de l'Avalanche, et ouais. Pour moi, sans surprise celle de la Caroline, malgré qu'il y a plusieurs qui pensaient que Boston
avait
une chance, mais ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur hockey, ça. C'est pas pareil. Mais non, mais pour vrai, ça va être intéressant. Le prochain match va avoir lieu aussi également demain soir à 9h30, pour être exact, du côté de Dallas.
Moi, personnellement, on va souhaiter des buts.
Moi, je vais regarder ça du coin de l'œil. Perso, c'est un peu tard pour moi, là, souvent aussi. Là, puis, si la cadence se maintient, je pense pas que je vais regarder ce match non plus. Je vais regarder le lendemain matin comme j'ai fait depuis le début des séries éliminatoires. Là. Bon, Phil, je t'explique le concept rapidement. D'habitude, nous autres, à chaque épisode, on a une surprise et une déception de la soirée. Et là, c'est à ton tour. C'est quoi ta surprise et c'est quoi ta déception de la soirée d'hier?
Ouh, OK. Ben, la surprise, c'est définitivement le match contre l'Avalanche et les Preds qui s'est rendu en prolongation, qui l'eût cru. Moi, je pensais personnellement que ça allait être un autre match, une autre raclée, que ça allait finir peut-être 5-1, 5-2, puis que les Preds, ça allait finir là. Et donc, Ingram qui a sorti 8 lapins de son chapeau, puis qui a fait des arrêts exceptionnels, qui a gardé Nashville dans le match. Ça, c'est ma surprise. Puis ma déception. Ma déception, mais je vais y aller justement du côté des Flames de Calgary. Je suis vraiment déçu de leur jeu en ce moment, puis de voir qu'ils ont juste un but en deux matchs avec l'effectif qu'ils ont. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment décevant. C'est une équipe qui, normalement, lorsque ses deux premiers trios produisent pas, ce qui est très rare, peut s'appuyer quand même sur un bottom six qui est quand même très bon. Dylan Dubé est capable de marquer des buts, même chose pour Yann Crock. Coleman aussi fait sa part. Donc, je trouve ça assez décevant qu'aucun de ces trios-là soit capable de produire en ce moment.
Non, t'as des excellents choix. Moi aussi, je fais ma surprise, ma déception. Puis je vais faire ça maintenant. Du côté de ma surprise, je suis très d'accord avec toi. Connor Ingram, hier, a pour moi eu la première étoile de toutes les parties, littéralement, là. C'est pas juste celle entre l'Avalanche puis Nashville, mais des quatre séries, parce qu'à mon avis, arriver à son premier match en carrière en séries éliminatoires, puis t'affrontes la meilleure équipe de l'Ouest, peut-être même l'équipe favorite pour remporter la Coupe cette année, puis qui est capable de sortir une performance de la sorte avec 49 arrêts sur 51 tirs. Pour moi, c'était incroyable, puis c'est lui qui a littéralement permis aux Prédateurs de Nashville de rester dans le match. Sans lui, les Prédateurs hier perdaient probablement 5 ou 6-1 facile.
Ouais,
C'était
je
à
suis
ce
d'accord.
point-là, à sens unique, là. Puis, du côté de ma déception, je crois que je vais y aller cette fois-ci avec la profondeur du côté des Penguins de Pittsburgh. Je sais qu'il y a beaucoup de blessés au niveau du top 6 et du top 12 même. Mais comme on l'avait mentionné plus tôt, il faut que les Penguins produisent. Mais il faut qu'il y ait d'autres joueurs que Crosby, Malkin, Genzel, Ross et le temps qui produisent pour les Penguins, parce que sinon, cette série-là va probablement être plus courte que prévu du côté de Pittsburgh. Malgré que ça va être une série extrêmement serrée, là, on sait que les deux équipes, pour moi, ces deux équipes-là ont des lacunes, autant les Penguins que les Rangers. C'est ça qui s'annonce, c'est ça qui va s'annoncer intéressant. Donc, pour ma surprise, mais je suis d'accord aussi avec, non, pour ma déception, je suis d'accord avec toi, Phil, aussi, sur le fait que les Flames de Calgary doivent se réveiller facilement. Mon autre déception que j'allais mentionner, c'était Johnny Gaudreau. Mais
Ouais.
c'est plus que Johnny Gaudreau, là, c'est juste
C'est toute
toute l'offensive.
l'attaque.
C'est toute l'attaque des Flames. Là, fait que je suis très d'accord avec toi. Ce
Mais
soir.
du côté des Pingouins, là, une autre déception à la défense, là, ça serait Mike Madison. Il y a un match très difficile hier.
Ouais, hier soir, ouais, c'était pas évident. Puis, tu sais, la blessure de Brent Dumoulin fait extrêmement mal du côté
Ouais.
des Penguins de Pittsburgh, là. Genre, d'habitude, on vante les prouesses de Letang, puis il y en a beaucoup qui espèrent le voir à Montréal, là, mais oui, Christopher Letang connaît une saison exceptionnelle, mais Brian Dumoulin a un apport incroyable du côté des Penguins de Pittsburgh, parce que c'est lui qui couvre Christopher Letang quand il décide de se porter à l'attaque. Souvent, c'est lui qui va venir calmer le jeu, venir le couvrir, parce que souvent, quand tu montes. Quand tu montes à l'attaque et que tu es défenseur offensif, tu as tendance à avoir quelques petites lacunes au niveau défensif. Puis l'absence de Brian Dumoulin a fait mal. Puis c'est pour ça que Malcolm Mathisson jouait avec le temps hier puis qu'il a connu un match difficile, parce que c'est pas son style de jeu. Lui aussi, c'est un gars qui aime se porter à l'attaque, il a un excellent coup de patin, puis il est capable de se projeter à l'attaque. Mais si tu as deux joueurs du même style sur une même paire, ça arrive qu'il y a un des deux qui connaît un match difficile. Mais c'est important de mentionner aussi du côté des Penguins de Pittsburgh que ton premier match a terminé en cinquième prolongation. Puis t'as un groupe de joueurs qui est quand même plus âgé que non seulement celui des Rangers, mais je crois que c'est le plus âgé dans la Ligue nationale de hockey. Il y a peut-être les Islanders qui sont un peu plus
Ouais.
vieux, là, mais genre le reste,
Puis t'es à
comme tout,
l'étranger en plus, là. Fait que c'est sûr
et
que
être
c'était
à
pas
l'étranger.
facile.
C'était pas étranger. Moi, je m'attends aussi à une bonne performance, à une meilleure performance de Malcolm Mathisson. C'est un excellent choix, Phil. Phil, en fait, ce soir plutôt, ce
Ouais.
soir, il va y avoir quatre matchs.
Ouais.
Quatre matchs numéro 3. Évidemment, Il y a la série Caroline-Boston qui va se continuer. Même chose aussi du côté des Maple Leafs et du Lightning. Et du côté de l'Association de l'Ouest, il va y avoir la série entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles. Et la série tant intéressante qui est celle entre les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota. Phil, pour toi, c'est quelle série qui va le plus attirer ton attention?
La série qui va plus attirer mon attention, je pense que ça va être celle des Maple Leafs contre le Lightning. Bien hâte de voir la partie numéro 3. Pour l'instant, ma prédiction pour ce match-là, ça va être une victoire assez convaincante du Lightning, étant donné qu'ils reviennent à la maison. Ils ont gagné le dernier match, ils sont gonflés à bloc, puis ils ont vraiment, je trouve, une meilleure équipe overall que les Maple Leafs. Mais les Maple Leafs, c'est une équipe qu'on suit beaucoup à Montréal. C'est une équipe qu'on aime détester en tant que partisan des Canadiens. Puis, ça va forcément donner un match excitant. C'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Donc, je vais regarder ça avec une grande attention.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aime ça prendre un choix différent des autres. Fait que je vais prendre un autre choix. Mais je suis d'accord avec toi que moi aussi, je vais porter une attention particulière sur cette série-là. Mais moi, je vais regarder la série entre les Oilers d'Edmonton puis les Kings de Los Angeles. Je trouve que c'est une série qui est très égale. Elle est surprenante, cette série-là, parce que des fois, les Oilers d'Edmonton sont capables de sortir un excellent match comme le match numéro 2. Des fois, ils sont capables d'être moins bons comme le match numéro 1. Puis les Kings de Los Angeles, OK, oui, ils ont perdu 6-0 lors du dernier match. Mais je trouve qu'en général, les Kings jouent bien. Ils jouent vraiment bien. Ils ont un bon système de jeu. Le trio de Dano avec Aiefalo et Trevor Moore produit non seulement bien, mais joue de l'excellent hockey. Puis il y a aussi le trio de Copedos qui joue bien. Puis j'ai vraiment l'impression que ce match-là, oui, OK, c'est le match de plus tard, mais c'est un match qui prouve qu'il y a de la parité dans cette série-là. Fait que je vais regarder cette série-là. Mais aussi, je vais m'intéresser aux autres séries, évidemment. Là, je sais qu'il y a celle de la Caroline et Boston, c'est pas la série la plus égale, mais je vais quand même y jeter un coup d'œil. Puis il y a la série entre le Blues et le Wild.
Qui est aussi très intéressante.
Qui est aussi très intéressante. Premier match, on sait que les Blues ont gagné... ont gagné de façon convaincante, et alors que le Wild aussi a bien joué au match numéro 2 et ils ont réussi à gagner le match numéro 2 de façon convaincante. Ici, c'était 6-2, Carey qui a pris ça tout de chapeau. Bref, ça va être des séries à... Ça va être intéressant, les matchs ce soir, ouais. Là, c'est clair.
Mais j'ai l'impression ce soir que... Moi, je donne vraiment l'avantage de la patinoire à soir à toutes les équipes. J'ai l'impression que les Bruins, dans le contexte où ils sont actuellement, vont aller chercher la victoire. Ils n'ont pas le choix, sinon c'est pas mal fini à 3-0. Je m'attends vraiment à une victoire des Bruins. Je m'attends à une victoire du Lightning, comme je l'ai dit. Je m'attends à ce que les Kings l'emportent aussi chez eux. Ils vont avoir le dernier changement. Donc c'est très, 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 très important contre les Oilers. Quand tu as Philippe Dallot dans ton équipe, que tu peux placer un peu où tu veux aux arrêts de jeu. Même chose pour Kopitar. Puis je m'attends aussi à une victoire des Blues. Je m'attends à un retour en force. Donc, vraiment, l'avantage de la patinoire, super important ce soir.
Non, je suis 100% d'accord sur ce point-là avec toi, Phil. Bon, c'est ça qui complète un autre épisode d'Aux Premières Loges. Phil, merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Je pensais
un plaisir.
À ce résumé-là. Puis, pour les gens, on se revoit demain pour un autre épisode. Je ne sais pas si je vais être présent. Ça va dépendre. Évidemment, on va être là. Il va y en avoir d'autres qui vont être présents. Là. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un épisode. On l'a promis qu'on allait faire un épisode par jour durant ces éliminatoires. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Et sur ce point-là, au nom de toute l'équipe, je suis Douali Ibrahim et on se voit demain pour un autre épisode d'Aux Premières Loges.